Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM, il est 13h03, nous sommes le 19 janvier 2023 et aujourd'hui nous vous embarquons dans une émission spéciale pour vous préparer aux nuits de la lecture qui débutent ce soir. Pour vous guider dans le noir, les yeux fermés, j'ai à mes côtés Sébastien Vidal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous êtes romancier et dans le monde du polar, un univers où nos peurs prennent parfois vie. Vous faites aussi des chroniques sur Bram FM, mais je vous représente quand même.
Et je
vous revois pour cette émission aussi. Fabienne Hiver est à nos côtés. Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Fabienne, dois-je encore te présenter ?
Oh,
oui.
Peut-être pas.
Si Fabienne, vous êtes artiste, auteur et bien plus encore. On a fait une émission ensemble il n'y a pas très longtemps que les auditeurs peuvent retrouver sur le site de Bram FM. Vous intervenez d'ailleurs régulièrement ici à l'antenne. Et là, vous avez donc préparé pour ces nuits de la lecture un petit atelier de prise de son. On en reparlera tout à l'heure. Et puis à nos côtés, il y a Clément aussi qui est là dans le studio. Bonjour Clément.
Bonjour.
C'est ta première à la radio.
À peu près, oui.
Et tu vas nous parler de la peur aussi aujourd'hui avec nous dans le studio. Donc nous sommes ensemble en première partie d'émission pour vous parler de lecture et de peur, vous l'avez compris. À 13h30, vous entendrez le journal régional. En deuxième partie d'émission, François de la librairie Préférence nous invitera à plonger dans les origines de la peur en littérature et son évolution jusqu'à nos jours. Chaud, l'hiver sera chaud, c'est par ces mots que Dominique Grador, présidente du Festival du Bleu en hiver, prévoit l'ambiance de la prochaine édition de ce festival de jazz qui débute aujourd'hui. C'est le sujet de la chronique en Limousin, vous l'entendrez à 13h50 et à 13h55. La météo sera au rendez-vous malgré la grève d'Isabelle, c'est promis. Voici le programme de l'heure à venir, vous êtes ici sur Bram FM jusqu'à 14h et nous sommes en direct. Et rebonjour Sébastien Vidal et rebonjour Fabienne Hiver.
Bonjour.
Et merci à tous les deux. Et trois, il y a Clément aussi dans le studio avec nous. Il est juste caché derrière une montagne de racks de techniques, mais je t'aperçois quand même juste là derrière.
Très bien.
Alors tous les trois, nous allons faire cette émission spéciale autour des lectures et de la peur. Et tout d'abord, ensemble, pourquoi ne pas essayer de définir le mot de la peur ? Qu'est-ce que c'est pour vous, Fabienne, la peur ?
C'est difficile à définir simplement. C'est quelque chose qui provoque l'angoisse, la crainte, et ça peut être physique ou psychologique. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, c'est quelque chose qu'on porte depuis le début dans notre ADN, la nuit des temps, la peur est présente en nous, pour le meilleur et pour le pire. Puisque au départ, elle servait à déclencher des décharges d'adrénaline pour pouvoir, par exemple, fuir un danger. Avoir un afflux comme ça d'énergie très court, mais très, très violent pour fuir un prédateur, par exemple. Ah. Voilà. Mais voilà, ça, c'est certainement le compagnon de toujours de l'espèce humaine.
De la vie.
De la vie en général même, oui.
Lovecraft a dit, je le cite, « L'émotion la plus ancienne et la plus forte chez l'homme est la peur, et la peur la plus ancienne et la plus forte est la peur de l'inconnu. Oui. » Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ?
C'est très très beau.
Oui, la peur de l'inconnu, la peur de ce qu'on ne connaît pas, la peur... c'est quelque chose de... C'est vraiment la peur de fond, quoi. C'est le fil rouge de la peur. Et on le voit encore aujourd'hui, ça résonne d'une manière vraiment très forte. La peur de l'inconnu, la peur des événements, la peur du futur, la peur de l'étranger, la peur du migrant. Il y a tout un tas de peurs irrationnelles qui viennent du fait qu'on est sans cesse en train de se projeter, quoi.
Et de se poser des questions en tant que terrien, tout simplement.
La peur est une émotion. elle côtoie la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise. Vous, en tant que lecteur et lectrice, est-ce que vous avez repéré des procédés littéraires pour convoquer la peur ?
Grand blanc.
Qui commence ?
Vas-y, bah, commence.
Des procédés, oui. En littérature, la peur, c'est quelque chose qui est pas si facile que ça à générer chez le lecteur, puisque on n'a que des mots. Et avec ces mots, il faut fabriquer des images. Et c'est ces images qui vont potentiellement faire venir la peur. Donc le processus est très artisanal, puisqu'il n'y a pas de recette. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais en général, c'est pour ça que pour les nuits de la lecture, on m'a demandé de trouver des passages, des extraits à lire, et c'est pas évident parce que en général, on prépare le lecteur au moment qui fait peur. Donc il peut y avoir plusieurs pages de préparation psychologique avec des descriptions, avec une tension qui monte, pour arriver au moment fatidique qui vraiment déclenche la peur. Avant, c'est plutôt de l'angoisse que de la peur. Et donc, trouver des extraits qui soient pas trop longs et vraiment qui sont en plein dans le thème, c'est pas évident. Donc le procédé, à mon avis, une longue préparation psychologique, enfin plus ou moins longue. Et puis il y a des ressorts. Connus qui fonctionnent dans d'autres domaines comme le cinéma, avec le noir, avec la nuit, avec les menaces invisibles. Il y a tout un tas de possibilités.
D'autant que tout le monde n'a pas peur pareil, au même moment, pour les mêmes choses. Mmh. Et par rapport aux livres aussi, il ne faut pas oublier tous les livres illustrés d'enfants ou la BD, etc. Où ça passe aussi par le dessin, par le dessin ou par l'image, par l'illustration.
Fabienne, vous avez fait une collecte de témoignages autour des lectures de la peur. Quelles questions exactement vous posiez aux personnes à qui vous avez interviewé ?
Quel était le premier livre qui leur a fait peur et le dernier livre qu'ils aient lu qui leur a fait peur ?
Et qu'est-ce qu'il en est sorti ? On va écouter juste après un extrait d'une de vos interviews. Qu'est-ce qu'il en est sorti ? Est-ce que globalement, on va vraiment chercher dans l'enfance ou est-ce que ça peut être plus tardif ?
Ça peut être plus tardif, mais oui, dans l'enfance. Et des lectures auxquelles on... Moi, par exemple, Pinocchio a fait très très peur à quelqu'un. J'aurais jamais pensé à ça.
C'était quoi dans Pinocchio qui faisait peur exactement ?
Le fait incroyable que son nez grandisse.
Enfin, même pas le fait qu'il soit quasiment esclavagisé à un moment par...
Non, quand t'es petit, peut-être ça te passe un peu...
Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a même des grilles de lecture de la peur en fonction de notre évolution et de la manière dont on grandit. Et on va plus avoir le même regard sur les choses, et la peur, elle se meut aussi avec notre évolution à nous. Est-ce que vous avez vécu ça, des films ou des dessins animés, par exemple, qui faisaient peur à un moment ? Et en fait, aujourd'hui...
Après, on le revoit et ça fait plus...
Ou ça peut encore faire peur, mais c'est une autre vision qui va faire peur. Par exemple, pour Pinocchio, peut-être...
On le relit différemment. Mais en tout cas, les gens, quand ils racontent une peur d'enfance, ils l'ont encore très, très forte. Enfin, ils en ont un souvenir, sans pouvoir forcément analyser les effets physiques, etc. Mais en tout cas, ils en ont un souvenir très, très vif.
Tout se joue pendant l'enfance, de toute façon, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Donc les peurs éprouvées, les peurs qui sont nées pendant l'enfance, on les garde toute sa vie. Alors elles peuvent se tapir dans un coin pendant longtemps, mais voilà, elles sont là, elles sont prêtes à ressurgir. Les peurs enfantines de la bête tapie sous le lit qui va vous attraper la cheville quand vous allez poser les pieds par terre, le croque-mitaine dans l'armoire... Et d'autres, la peur de... Après, elle se transforme, mais il y a toujours une base qui s'est installée pendant l'enfance.
Et du coup, oui, pardon, en allant interviewer les libraires à la librairie Champ de Page, l'une d'elles disait que les enfants demandaient des livres qui fassent peur, mais pas trop.
Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, Fabienne, avant l'interview, de cette interview de la libraire de Chantebâche qui disait qu'elle n'avait quasiment pas de livres qui faisaient peur. Et on se faisait la réflexion que parfois la peur peut être dans le trait de l'illustration. Parfois l'histoire ne fait pas forcément peur, mais ça peut être un personnage illustré d'une certaine manière qui va aller convoquer la peur. Clément, toi qui as quitté le monde de l'enfance, mais il n'y a pas si longtemps, me semble-t-il.
En effet.
Est-ce que tu peux répondre à la question de Fabienne ? Quel est le premier livre qui t'a fait peur ?
Le premier livre qui m'a fait peur ? Ah, c'est une question compliquée, mais ça m'est quand même assez marqué. C'est un livre que mon père m'avait conseillé, de Stephen King, qui est un maître inconcessé de l'horreur. C'est La peau sur les os. Cette manière, tout au long du récit, on s'apparente au personnage principal et petit à petit, il se voit se dépérir et il peut absolument rien faire pour aller à l'encontre de cette malédiction. Et je trouvais que c'était très effrayant d'avoir aucun contrôle en fait, sur ce qui nous arrivait.
Je pense que le fait d'être impuissant, ça fait très peur.
Oui.
De manière générale.
Surtout quand on est enfant.
Surtout
et pourquoi,
quand on est enfant.
Pourquoi tu lui avais conseillé ?
Tant qu'à faire, lui donner des bonnes, de la bonne cam tout de suite, quoi. Hein? Mais oui, Stephen King, c'est, je pense que cette semaine, pendant la nuit de la lecture, son nom va être prononcé souvent.
Briller.
Il va être prononcé souvent et il va être beaucoup lu. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé et je trouvais qu'il y avait des choses pour lui à en retirer, notamment, comme il l'a dit, sur le ce qu'on ressent quand on n'a plus aucun contrôle sur les choses, quoi, qu'on se sent complètement impuissant. La perte de contrôle, c'est une grande peur qu'on retrouve chez pas mal de gens.
La mécanique, surtout d'avoir l'impression qu'on n'a plus le contrôle de son corps, surtout qu'on en est à l'extérieur en fait. On serait limite quelque chose d'étranger en fait à notre propre corps.
Ce qui peut arriver aussi dans la vraie vie, parfois de ne pas se sentir à sa place dans son propre corps. Mais bon, ça c'est une autre chose. Est-ce que Sébastien, tu es venu avec plein de livres ?
Oui.
Très rapidement, en deux minutes avant, je t'ai demandé de choisir. Est-ce que tu veux bien nous honorer d'une lecture ?
Oui. Alors, c'est une lecture qui va faire un peu un pas de côté, parce qu'on n'est pas dans les grandes giclées d'hémoglobine. C'est pour montrer justement qu'il y a différentes peurs. Et ça va rebondir un peu sur ce que disait Fabienne. Qu'on n'a pas tous peur au même moment et on n'a pas tous peur de la même chose. Donc, dans l'art, que ce soit en BD, en écriture, au cinéma, ça complique la chose, puisqu'il faut trouver des peurs qui fédèrent, des peurs un peu universelles, qui servent de support pour ensuite que chaque personne puisse construire sa peur, si j'ose dire. Tu parlais de la BD, du livre, du support. En fait, c'est pas tellement le... Il y a des livres qui font peur, mais c'est pas tellement le livre qui fait peur. Le livre, à mon avis, c'est un support, et le lecteur projette ses peurs dedans. Et c'est pour ça que si on demande à 100 personnes quel est le livre qui lui a fait peur, le plus peur, on aura 100 réponses différentes. Donc là,
heureusement.
Ouais, peut-être pas 100.
Peut-être pas 100. Donc là, j'ai choisi un recueil de nouvelles d'un romancier qui est corrézien, qui s'appelle Anthony Signol, qui a publié 3 recueils de nouvelles dans les années... entre 2015 et 2019. C'est un grand fan de Stephen King, et ça se sent. Et donc, je vais lire un passage de la nouvelle numéro 3 qui s'appelle Éternité. Alors, je vais faire un petit résumé pour que quand même vous puissiez vous mettre dans le contexte. Une détonation a provoqué un éboulement dans la galerie souterraine. Simon, jeune homme naïf, se retrouve enseveli. Pourtant, sa force et sa rage parviennent à l'extirper de ce cauchemar. Lorsqu'il se croit tiré d'affaire et qu'il atteint enfin la lumière du jour, une surprise de taille l'attend à la surface. Le monde a changé. Bien des choses ont disparu et Simon se retrouve seul, ou presque. Alors, chapitre 10. La ville était telle qu'on l'aurait fui suite à l'annonce d'une guerre imminente. Immobile, déserte, abandonnée de toute âme, avec un bémol toutefois. Elle était parfaitement en ordre. Les véhicules semblaient avoir été abandonnés sur leur voie de circulation, sans précipitation, portières soigneusement fermées. Aucun accident, pas de contresens, aucun dégât, pas d'effraction ou de casse. Les vitrines de commerce, pour la plupart ouvertes, étaient intactes. Si Simon, essoufflé, marchait désormais, appelant toujours à l'aide. Il cheminait tantôt entre les voitures, tantôt sur les trottoirs déserts, éberlués. S'il y avait eu une catastrophe, il devrait y avoir des corps, ou bien des blessés, ou même des survivants, comme lui. Mais plus il avançait et découvrait les rues abandonnées, plus il ressentait cette effroyable sensation d'être la seule personne encore vivante ici. Il cessa de crier, car il commençait à réaliser que ça ne servait plus à rien. Personne ne lui répondrait. Il se remit à courir, incrédule, au hasard des rues parsemées de voitures silencieuses. Il constatait, effaré, les magasins déserts, les platanes dépourvus de leurs grandes feuilles, le silence angoissant et l'absence totale de vent. Ses pas résonnaient anormalement, comme s'il courait sur les planches d'une immense scène de théâtre. Les fenêtres des appartements, pour certaines ouvertes, ne laissaient apparaître aucun visage, aucune silhouette rassurante. Même les yeux au ciel, il n'apercevait pas le moindre oiseau, le moindre pigeon, alors que cette ville en était infestée d'habitude. Les feux tricolores, au carrefour, avaient cessé de fonctionner. Privé d'énergie, ils se contentaient désormais d'observer Simon de leurs trois yeux morts, spectre cynique et inquiétant.
Merci beaucoup Sébastien. Effectivement, c'est inquiétant.
J'espère.
Et là, pour le coup, la peur de l'inconnu, elle est immense, parce que quand on est dans une solitude aussi effroyable, que faire ?
Que faire
Que fait Simon ? Non, je plaisante. La suite.
Que faire se retrouver dans une situation qu'on n'a pas envisagée, dans un territoire qu'on connaît, mais qui a complètement changé.
Qui est inconnu.
Donc c'est l'inconnu qui surgit dans le connu. Et c'est très déstabilisant. Et ça génère une angoisse et une peur assez... Je pense qu'il est assez répandu dans la population.
Mais il y a eu des paysages assez apocalyptiques, notamment pendant la période du premier confinement, où on a vu ces rues devenues désertes. Et finalement, on avait un peu cette sensation de toucher du doigt des scénarios d'anticipation qu'on a beaucoup vu dans les films de villes absolument dépeuplées, avec le retour même de la nature, avec les animaux qui sont revenus en ville se promener. Donc voilà, on a vécu un peu ça... un tout petit peu, quoi. C'était un peu moins triste, c'était un peu moins flippant, mais on a vécu un petit peu ça.
Voilà, c'était un prémisse.
Voilà. Je vous propose qu'on fasse, qu'on écoute quelques notes d'un groupe qui va passer là dans le cadre du Festival du Bleu en Hiver. Daïda, c'est un titre qui s'appelle Ourvari. Et Ourvari, ça désigne la ruse d'une bête de chasse qui, en revenant sur sa proie, trompe les chiens de la meute. Ce moment où tout bascule, où la peur laisse place à la bravoure. Voilà, donc on va écouter un extrait de ce titre et après on poursuit cette émission autour de la peur et de la lecture. Daïda avec le titre Urvari, donc Daïda qui sera samedi soir en concert au Magic Mirror de Tulle dans le cadre du festival du Bleu en hiver qui débute aujourd'hui, je vous le rappelle, c'est un concert qui est gratuit et donc Daïda ce sera à 23h. Nous poursuivons notre émission autour de la lecture et de la peur, vous êtes ici sur Bram FM, nous sommes en direct jusqu'à 14h et il nous reste 5 petites minutes avec mes invités aujourd'hui, Sébastien Vidal, Clément Vidal et Isabelle, Fabienne Hiver, pardon. Et donc, juste avant cette pause en musique, Sébastien, tu nous as honoré de la lecture d'un texte de ton choix qui t'a évoqué la peur, mais on a parlé aussi de qu'est-ce que la peur de manière générale et comment est-ce que dans les procédés littéraires, on vient chercher chez les lecteurs et lectrices les différentes peurs là où elles se trouvent. Toi, Fabienne, tu as tendu ton micro à des personnes par-ci, par-là, en tout cas dans le coin. Je propose qu'on écoute un extrait, ou au moins une prise de son, d'une personne donc, qui a fait une lecture autour de la peur. On l'écoute et on en reparle juste après avec toi, Fabienne.
Oui, à propos d'un livre d'un éditorialiste et d'un politologue qui est récent, dont le livre m'a laissé quelques peurs, quelques frayeurs, dans la façon dont il avait de parler des femmes, sous un regard, pourtant sous une langue extrêmement polissée, extrêmement cherchée, ça frisait la perversité et la duplicité. Et ça m'a laissé sérieusement peur. Ce qui me laisse encore plus terrifié, d'une certaine façon, c'est qu'il a reçu une éloge absolument laudative de la part de la critique. Je n'en dirai pas plus.
Et du coup, vous donnez le titre du livre ?
Non, je ne donne pas le titre du livre. Il vaut mieux pas.
Il ne vaut mieux pas donner le titre du livre, donc on ne saurait pas.
Il avait peur.
Il avait peur de donner le titre du livre. En fait, ce que j'ai adoré avec cette prise de son, c'est que c'est tout un paradoxe, en fait. Et même le fait qu'il évoque les choses comme ça, de la peur, ça nous fait presque peur à nous. On se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui a été écrit ? Qu'est-ce qui a été écrit dans ce livre ? Ouais. Et donc là, lui, il convoque l'inconnu absolument. Il fait que ça, en fait. Et donc, il va aller chercher notre peur. Elle est géniale, cette prise de son. Bravo, Fabienne. Je trouve ça super.
Bah, c'est lui, hein.
En tout cas, un personnage absolument incroyable. En plus, tu m'as dit, tu m'as glissé que c'était un personnage religieux, ce qui m'a encore plus surprise, je crois. Est-ce que tu as eu d'autres surprises dans tes prises de son comme ça ?
Du coup, puisque je fais un atelier d'écriture à Peuple et Culture, on a travaillé là-dessus et chacun a dit des livres, enfin, qui lui faisaient peur. Et ce qui était assez joli, c'est que on peut pas savoir. Même quand on connaît les gens, que ce sont des amis ou quoi, on est incapable de dire ce qui pourrait leur faire peur ou pas comme lecture.
Alors, moi j'ai une question à te poser, Fabienne. Quelle est ta première lecture qui t'a fait peur ?
Alors, la toute première, j'en sais rien, mais une lecture qui m'a fait vraiment peur, et d'ailleurs tu avais apporté le livre, c'est pas celui que t'as lu, c'est La Route de Cormac McCarthy.
Ouais, chef-d'œuvre.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre ? Alors, en une minute.
En une minute, j'ai peur. La Route, c'est un roman de Cormac McCarthy, donc une des plus belles cylindrées de la littérature américaine, qui n'est pas à l'abri de recevoir le Nobel un de ses jours, et qui raconte, qui a été adapté, ce roman qui a été prix Pulitzer en 2007, je crois, a été adapté au cinéma avec Viggo Mortensen. Et donc ça raconte l'histoire de... il y a eu probablement une guerre nucléaire, le monde est ravagé, la quasi-totalité de la planète, des habitants sont morts. Tout n'est plus que incendie, fumée, hiver permanent, froid, pluie. Et donc on suit le parcours dans ces décombres d'un père et son fils qui essaient de rallier le sud des États-Unis. Pour trouver un endroit où mieux vivre. Et donc il faut qu'il évite les hordes de hors-la-loi, les cannibales, puisqu'il n'y a plus rien à manger que ce qui avait été fabriqué avant, donc des boîtes de conserve. Donc c'est l'insécurité totale, permanente, avec un décor glauque, lugubre, à souhait, puisqu'on est on a un décor de fin du monde. Donc et on suit c'est un huis clos au grand air, en fait. On suit ce binôme là, et plus on avance, plus on sent l'étau qui se resserre, non seulement sur eux mais sur nous aussi. Donc c'est vraiment un très très grand livre.
La Route, C'est de qui, rappelle
Cormac McCarthy.
Cormac McCarthy. Bon, merci infiniment à tous les deux, tous les trois, d'avoir été à mes côtés aujourd'hui pour cette émission autour de la peur. J'avais choisi aussi un livre, moi, qui m'a un peu fait suer aussi, c'est Un printemps à Tchernobyl de Emmanuel Lepage. Donc Emmanuel Lepage va documenter dans la zone, il va faire des dessins pour documenter l'état de la zone de Tchernobyl 22 ans après la catastrophe que l'on connaît. J'avais très envie de vous interviewer aussi sur cette période que vous avez connue, Tchernobyl, et que je n'ai pas connue. Mais en tout cas, ces paysages assez apocalyptiques et en même temps assez magnifique, et lui il décrit bien la difficulté de devoir dessiner l'invisible et surtout l'horreur qui ne se voit pas parce qu'en c'est fait tout est radié. Donc, mais ça rejoint un peu du coup ce que tu décris par rapport à ce livre sur la route. J'imagine aussi qu'il est question de radiation ambiante et de cette atmosphère fort déplaisante. En tout cas, un immense merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, d'avoir été mes invités. Je rappelle que les nuits de la lecture commencent ce soir, mais sur Bram FM, nous on vous réserve un créneau pour la soirée de samedi soir. À partir de 20h, vous entendrez toutes les prises de son qu'a fait Fabienne autour de la lecture et de la peur. Et puis voilà, en fait, il est déjà 13h passé 31 minutes. Dans quelques instants, nous poursuivons notre émission avec François de la librairie Préférence, qui remonte aux origines de la peur en littérature. Vous êtes bien sur Bram FM, c'est l'heure du journal régional. Un grand merci à tous les trois d'avoir été avec moi.
Merci. Merci.
L'actualité en Limousin et Périgord, le journal des radios associatives libres. Sébastien Péjou.
Bonjour à tous. Jeudi 19 janvier 2023, journée de mobilisation contre le projet de loi réformant les retraites. L'ensemble des secteurs sont touchés par des mouvements de grève. C'est le cas dans les transports ou les établissements scolaires. Concernant les écoles maternelles et élémentaires, dans la plupart des cas, un service d'accueil minimum est en place pour les élèves. Cependant, par manque de personnel, certaines communes ne sont pas en capacité de respecter cette loi. Dans les collèges et lycées, les services de restauration fonctionne, sauf à la cité scolaire Limousin de Limoges qui ne servira pas les demi-pensionnaires. Le self sera également fermé pour tous les élèves du lycée horticole de Brive-Voutezac. Les étudiants pourraient également se mobiliser. Thibaut Salomon est étudiant en licence de sociologie à Limoges.
Ce qui nous touche particulièrement les étudiants, c'est le fait de devoir commencer à travailler tôt, alors que pourquoi travailler dans des bons travails pour avoir si on va avoir des travails épanouissants, si on va avoir des travaux qui sont bien payés, si on va avoir des travaux qui nous correspondent, tout simplement, il faut travailler de plus en plus longtemps parce que y a de plus en plus de personnes qui ont le bac, il y a de plus en plus de personnes qui ont des études légères, etc. Et c'est un petit peu le piège parce qu'on se dit que c'est loin, on se dit que c'est pas touché, mais en fait finalement c'est au moment où on commence à travailler où la retraite elle est choisie quand ça sera.
Propos recueillis par Lucie Montibus au Sullivan de RCF Limousin. Plusieurs mobilisations contre le projet de loi de réforme des retraites en Limousin et Périgord. Ce matin à 10h à Guéret et à Tulle. À Limoges, le cortège s'élancera du Tourny à 14h. Même heure à Ussel, le rendez-vous est fixé à 15h, place du 14 juillet à Brive. Une dizaine de personnes a dû être évacuée d'un immeuble de Limoges hier. En fin de matinée, un incendie s'est déclaré dans un appartement rue Jean Jaurès. Il aura fallu l'intervention de la grande échelle pour porter secours à un homme de 86 ans intoxiqué par les fumées. Ses jours ne sont pas en danger. Il risque jusqu'à 60 000 euros d'amende et 4 ans de prison. Une procédure judiciaire est ouverte à l'encontre d'un éleveur. Une douzaine de chevaux ont été découverts maltraités dans le quartier de Landouge à Limoges. Deux ont été retrouvés morts de faim et de soif. Des poulains en manque de soins dans un état proche de la mort. Les animaux survivants ont été pris en charge par la SPA et par une association spécialisée basée sur la commune d'Écart en Haute-Vienne. Samedi, un groupement de professionnels manifestera son soutien au projet du contournement routier de Beynac. Selon la dernière décision de justice, le conseil départemental de la Dordogne, porteur du projet, doit démolir les constructions. Pour ne pas appliquer cette décision, la collectivité doit payer 3000 euros d'astreinte par jour. Les basketteurs du Limoges CSP se sont qualifiés pour le top 16 de Basketball Champions League hier soir. Un peu avant 22h30, quelques secondes avant la fin des prolongations, le CSP l'a emporté sur le parquet de Lewisburg 96-94. Le festival Auchan de Chantex en Corrèze complète peu à peu sa programmation. Hier soir, les organisateurs de l'association Tuberculture ont dévoilé le nom de quelques artistes qui seront présents les 6, 7, 8 et 9 juillet prochains. Il s'agit de Louis Chédid et Yann Cassar, les Trois Cafés Gourmands et San Salvador, ou plutôt San Salvador, pour respecter l'occitan, notre langue régionale dans laquelle ce groupe de jeunes corréziens s'exprime. Un groupe qui fait la réputation du village de Saint-Salvador, au nord de Tulle, dans la France entière. On entend la fin de la guerre, la fin de la guerre, qui est extrait de leur dernier album. Pour les voir en concert lors du festival Auchan, les places sont en vente sur le site internet www.tuberculture.fr. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très belle journée à tous.
Vous êtes ici sur Bram FM. Oui, vous êtes ici sur Bram FM et vous retrouverez le journal régional à 17h et à 18h30. Vous êtes soit sur le 98.3 en FM ou via notre site internet bramfm.com. Vous pouvez nous écouter en direct partout. Nous sommes donc en direct jusqu'à 14h. Dans une quinzaine de minutes, ce sera la chronique en Limousin, suivie de la météo à 13h55. Pour l'heure, toujours dans le cadre de notre émission spéciale autour de la lecture et de la peur, je vous propose d'écouter un titre Horde du groupe N Diaz qui passera très prochainement, soit demain soir au Magic Mirror à Tulle dans le cadre du Bleu en hiver. On l'écoute et juste après, François nous parlera des origines de la peur en littérature. A tout de suite. Ndiaz avec le titre Horde Ndiaz, un jazz cuivré qui se glisse entre chien et loup, ou plus joliment dit à la brume. Cette heure trop claire pour être la nuit et trop sombre pour appartenir à la journée. Ndiaz qui sera à 23h au Magic Mirror à Tulle dans le cadre du Bleu en hiver qui débute aujourd'hui. Et c'est gratuit. Et donc cette ambiance de brume un peu qui nous replonge dans la question de la lecture et de la peur. Et retournons aux origines de la peur en littérature avec François de la librairie Préférence.
Beaucoup d'origines en littérature se trouvent avec ce qu'on appelle le roman gothique. Alors le roman gothique, c'est un genre qui apparaît grosso modo en Angleterre, grosso modo, 18e, mi-18e, et qui s'est bien développé au 19e siècle. Et on le retrouve, par exemple, avec, mais là c'est encore plus ancien, avec Barbe Bleue, notamment de Perrault. Et là c'est vraiment l'archétype du gothique avec le château isolé, le château vide, beaucoup de pièces, des pièces fermées, un serviteur, pas plus, des pièces interdites, des choses à ne pas faire. Et on est enfermé dans cet univers sombre, humide, parfois glauque. Et le roman gothique, c'est ça en fait. Et on a retrouvé, alors je crois que l'origine, c'était le château d'Otrante de Walpole. Alors on est milieu 18e. Et puis après, plus connu, il y a eu... que j'ai jamais lu encore pour l'instant, Les Hauts du Hurlevent de Brontë, qui est considéré comme du roman gothique. Il y avait aussi le Carmilla de Sheridan Le Fanu, mais qui lui part du gothique pour arriver sur la figure du vampire. Et là on est milieu 19e, et après Bram Stoker, lui c'est plutôt fin 19e. Et dans les romans gothiques, ce qui est assez étrange, c'est qu'on met le Frankenstein de Mary Shelley. Il est très très connu, alors il y a eu beaucoup d'adaptations. Très peu ont été fidèles vraiment à l'ouvrage, mais le Frankenstein de Mary Shelley, c'est plus un roman, c'est plus du romantisme en fait, le romantisme à l'allemand, même si elle était anglaise. Et on va trouver, pas forcément déjà Frankenstein, c'est pas la créature puisque c'est le nom du docteur, mais on est plus sur l'idée de créer la vie, la responsabilité. On est sur plusieurs lieux, c'est assez bucolique, parfois champêtre, donc on n'est pas vraiment sur du roman gothique, mais il est considéré comme un roman gothique. Est-ce qu'il fait peur? Non. Non, parce que je l'ai lu quand j'avais 19 ans, et je l'ai relu il y a très peu de temps. Déjà, ce qui me frappe, c'est que c'est très bien écrit. Mais bon, en même temps, bon, c'était aussi l'épouse de Percy Shelley, donc un grand poète. C'est vraiment une grande autrice, mais on est plus sur des passions, sur de l'amour contrarié. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment une peur? Si, ce personnage qui arrive, qui voilà, quoi, ce monstre indéfinissable, ça fait partie des débuts. Donc forcément, pour l'époque, ça ne pouvait faire que peur. Voilà. Après, autre grand roman gothique, il y a aussi Le Moine de Lewis. On va être là-dessus. Et en France, il y a le Diable amoureux de Jacques Azot. Donc là, on est toujours sur du fantastique assez littéraire. Et après... qu'est-ce que je pourrais rajouter au XXe siècle? Alors moi, je pensais plus... On va sur plus tellement de la peur, parce qu'on est commencé à être blasé maintenant. Donc il en faut toujours plus. Et on va plus sur de l'horreur. Et il y a des auteurs très connus, comme il y a Stephen King, qui a participé à de l'épouvante. Pas trop d'horreur, mais plus de l'épouvante. Et après, il y a d'autres auteurs, comme... je me souvenais de Clive Barker. Qui alors lui est assez éclectique parce qu'il est dessinateur, réalisateur, écrivain, mais lui on est vraiment sur des peurs ancestrales, enfin des peurs vraiment profondes en soi. Et là on est vraiment sur la bonne horreur. Ou d'autres auteurs comme Dean Koontz, j'arrive jamais à le dire, il a un nom qui n'est pas facile, et Graham Masterton, voilà, qui sont des auteurs assez récents. Et en policier, je pensais aussi alors à des auteurs très connus qui fonctionnent beaucoup, comme Chatham ou Granger. J'ai lu 2-3 Chatham, et je me souviens d'un Chatham avec une scène que j'ai lue il y a 15 ans, mais qui est vraiment horrible. Avant, on était plus sur une peur intellectuelle, je dirais. Tandis que là, il faut montrer, il faut prouver, il faut quelque chose de concret. Et donc, on passe de la peur épouvante à l'horreur, bien souvent, et en littérature. Alors après, il peut y avoir souvent des peurs un petit peu intellectuelles sur... sur ce qui est sous-entendu, sur les implicites. Ceci dit, j'ai lu récemment, alors c'est les éditions du Typhon, une édition marseillaise, qui fait beaucoup de rééditions d'ouvrages du XXe siècle, qui sont plus disponibles, et ils ont fait que deux ouvrages d'auteurs récents, donc un qui était une compilation d'une anthologie de nouvelles, et puis un autre que j'ai vraiment trouvé très bon, qui s'appelle Le Chien Noir, de Lucie Barat, et qui est tout à fait dans le thème, puisqu'on est sur le thème du roman gothique. Elle a pris le thème de La Belle et la Bête et de Barbe Bleue, elle a mélangé le tout, et franchement, c'est une très belle réussite, parce qu'elle entamait toujours ses chapitres un peu, il était une fois, en reprenant un petit peu les vieux contes, mais elle va de suite dans le noir, et avec une écriture fabuleuse.
Merci beaucoup François et merci à toi Fabienne pour la prise de son. Tout de suite sur Bram FM, c'est l'heure de la chronique d'Isabelle qui vient nous parler aussi de la peur. Et juste après, ce sera la chronique en Limousin.
Bonjour, Maman j'ai peur de Brigitte Fontaine, de l'album Chansons d'avant le déluge, en duo avec Jacques Higelin que l'on n'entend pas ici sur ce titre, sorti en 1967, évoque une certaine forme de peur, sourde et latente, peut-être paralysante, chargée d'angoisse comme il peut en exister, des milliers de sortes. Ses textes et son ton habituellement revendicatif, libertaire, fantasque et moqueur, se contentent ici d'être sombres et ironiques et nous parlent d'une peur qui pousse au repli. Démonstration d'une étonnante et émouvante fragilité de la reine des kékés, la plus poète des déconneuses. On écoute « Maman, j'ai peur » de Brigitte Fontaine.
Son réveil pour 3 heures du matin, y en a qu'à pas sommeil, fallait pas jouer au malin. En Orient, on fait la guerre, c'est mieux que d'aller au bistrot. Dans, dans, dans. Mohamed a plus d'oreilles, c'est de la faute à pas de veine. En prison, il y a des matraques pour soigner les gens bavards, pour soigner les insomniaques. En prison, il y a le père Fouettard. Alors crois-moi, faut dormir. C'est ta maman qui te le dit. Crois-moi, faut laisser courir. C'est le bon Dieu qui l'a dit. Non, non, non.
Vous êtes bien sur Bram FM, il est 13h passé de 50 minutes. Dans quelques instants, Isabelle reviendra dans sa tenue couleur météo de loin, parce qu'elle nous l'a envoyée gentiment. Elle fait grève, mais travaille quand même. C'est ça, la magie de Bram FM. Pour l'heure, c'est l'heure de la chronique en Limousin. À tout de suite.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine, le rendez-vous de ses territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Alors que la neige apparaît en Corrèze et que l'effet de la tablette des rois s'estompe, alors que les contemplateurs de cerisiers en fleurs savent ce qu'est la patience et que le mois de janvier semble long pour ceux qui maintiennent leur résolution sur le dry January, le festival du bleu en hiver arrive à temps pour apporter à Tulle et à Brive la couleur du jazz, ou plutôt des jazz. La présidente du festival, Dominique Grador, prévoit même que chaud, l'hiver sera chaud.
C'est pas de la météo, j'espère.
Non, c'est pas de la météo, parce que la météo, elle est annoncée froide, froide, justement. Mais du coup, la nécessité de se réchauffer dans les salles, mais aussi de se réchauffer en écoutant du jazz, qui est extrêmement divers et qui emprunte beaucoup aux musiques, je dirais, chaudes. Voilà, qu'elles soient des musiques traditionnelles ou qu'elles soient des musiques, finalement, du monde. Voilà, donc c'est pour ça, je pense qu'il y a de quoi se plaire à aller au concert et il y a de quoi se réchauffer aussi au cœur de l'hiver avec les concerts proposés.
Et des concerts proposés durant ce festival qui se déroule à partir d'aujourd'hui et qui va se terminer le samedi 28, il y en a. Pour cette 18e édition, 23 concerts, dont 14 gratuits, sur 6 lieux. 6 lieux, d'abord à Tulle, et puis à Brive. Et il semble que ce festival s'est recentré et ne va plus à Boulazac. Pourquoi, Fred Pouget ? C'est voulu ?
Ouais, c'est volontaire, en fait, de le faire en deux temps. Parce qu'on a essayé plein d'options, et puis qu'on s'est rendu compte que ça avait du mal à faire festival dans l'une ou dans l'autre des villes. Donc on s'est dit, on va resserrer autour de choses à Tulle, et puis la semaine d'après, autour de choses à Brive. Et surtout à Tulle, on avait... avant l'empreinte, avant l'élargissement au niveau de la période de ce festival, on avait un lieu qui était un peu le QG du festival où on pouvait boire des coups, on pouvait manger, on pouvait écouter de la musique gratuitement. Et bien là, on va essayer de refabriquer ça en installant un Magic Mirror sur la place de la cathédrale à Tulle.
Et puis à Brive, où les concerts vont se dérouler dans divers lieux de la cité. On va avoir une programmation très très éclectique, à l'image de ceux qui l'ont réalisé. Fred Pouget, vous faites partie du Maxiphone Collectif, un collectif de musiciens, et qui participe à la réalisation du Bleu en hiver, et ça depuis le début, en collaboration avec d'autres.
C'est une collaboration entre des acteurs culturels du territoire, c'est-à-dire l'Empreinte, la scène nationale, Des Lendemains qui chantent, qui est la salle de musique actuelle, le Maxiphone, qui est ma compagnie de musique, des associations comme Grive-la-Braillarde, comme la FAL, qui est la Fédération des associations laïques. C'est un rassemblement d'énergie pour fabriquer ce festival, et ce, depuis le début du festival. Voilà, on peut proposer une programmation assez hétéroclite, des ouvertures vers ou les musiques du monde ou vers plutôt quelque chose de plus musique actuelle. Voilà, c'est assez gai comme façon de travailler, donc c'est assez chouette de faire comme ça.
Des ouvertures, plein de styles de jazz, c'est la mission de ce festival. Et dès ce soir, le concert inaugural, une première d'ailleurs, une création justement de Fred Pouget, Les Sauvages, construite autour de Jean-Philippe Rameau et de sa pièce pour clavecin, note que le jazz peut être aussi un jazz baroque. Alors d'autres influences, le trad, l'électro, le rock, le punk, le world, le swing, le funk, c'est une programmation ouverte pour tous et pour toutes les oreilles. Et sur ce point, Dominique Grador, vous êtes la présidente du festival, je le rappelle, vous tenez à cette grande diversité.
Il est important que le festival s'ouvre à tous les publics potentiels, tous ceux qui sont susceptibles d'aimer le jazz, de le découvrir. Et donc, il y aura une convivialité que l'on veut retrouver après quelques années de contraintes et d'entre-soi. Et donc, voilà, c'est la possibilité pour des publics qui ne sont pas très au fait de ce qu'est le jazz, finalement, de le découvrir.
Partons donc à la découverte de cette 18e édition du Festival du Bleu en hiver. Pour en savoir plus, consultez le site dubleuenhiver.fr, la page Facebook, Et aussi, vous pouvez réserver en billetterie avec ce numéro suivant, le 05 55 22 15 22. Le Magic Mirror vous accueille ce soir, place Gambetta à Tulle, dès 18h, pour fêter l'ouverture du festival avec The Groove Catchers Extended. Philippe Dauteville, Bram FM pour le Graal.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Et vous retrouverez la chronique en Limousin à 18h sur les ondes de Bram FM, mais pour l'heure...
Quand d'un coup miracle, il neige, et par la force des choses, on lève les yeux.
Encore un ciel bien chargé en cette matinée de demain, vendredi 20 janvier. Un ciel totalement encombré de nuages, mais pas de précipitations de prévues. Il fera toujours froid, des poterons minés, de moins 2 degrés à 0, pas plus, du nord au sud du département. Et puis l'après-midi, oh surprise, ce sera du grand soleil, oui, partout sur la Corrèze, un ciel bleu immaculé et donc un froid sec. On sera toujours dans les négatifs avec moins 1 du côté de Sornac dans l'après-midi. Et partout ailleurs sur le département, on passera dans les positifs. Pas beaucoup, avec 1 degré à Ussel et à Égletons, 2 à Trégnac, 3 à Userche, 4 degrés à Tulle, Brive et Argentat, jusqu'à 5 degrés à Beaulieu-sur-Dordogne, mais c'est quand même pas mal. Moi je trouve, je vous souhaite une très bonne journée et vous retrouve très vite dans Vous êtes ici.
À bientôt Isabelle. Un grand merci à Sébastien Vidal, Clément Vidal et Fabienne Hiver de m'avoir aidé pour cette belle émission autour de la peur. Merci infiniment à tous les participants et participantes des Nuits de la Lecture. Merci à François pour son savoir. Merci à Isabelle. Cette émission est à retrouver en podcast sur le site de Bram FM à partir de 14h30 et vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook pour suivre toute notre actualité. La suite du programme sur Bram FM à 15h, c'est Bienvenue chez moi. À 19h, Check ça, suivi de Babel Rock Trophy. Moi, je par manifester, mais je vous retrouve demain à 13h pour une émission très spéciale sur la nuit de la bourrée avec Olivier Durif. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi à l'écoute de Bram FM.